Vous êtes sur RTL. RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 15 janvier, la dernière radiographie de l'épidémie dans notre pays. Une hausse de 30% des contaminations la semaine dernière, en particulier chez les plus jeunes. Le couvre-feu mode d'emploi, nous verrons ce qui nous attend très exactement à partir de 18h demain. La technique de l'ARN messager utilisée dans les vaccins peut-elle changer la donne pour traiter les cancers? Nous serons en ligne avec la professeure Zit Vogel de l'Institut Gustave Roussy. Dans RTL Midi aussi, trois marins pêcheurs portés disparus du côté de Lyon-sur-Mer dans le Calvados. Leur navire a fait naufrage lors d'une opération de remorquage par les sauveteurs en mer. L'étrange message Facebook sur le compte de Delphine Jubilard, portée disparue depuis un mois de Cagnac-les-Mines. Un message vide, retiré au bout de quelques minutes. Tombe la neige en abondance dans le Grand Est. Nous irons en Alsace sous 25 cm. C'est sublime, mais un peu compliqué pour les transports. Et si on regarde le ciel, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
L'épisode neigeux est terminé en Alsace, mais pas ailleurs.
Non, pas ailleurs. Pour autant, les quantités seront quand même de plus en plus faibles au fil de l'après-midi. On a encore des chutes de neige et on va encore en avoir cet après-midi entre la Franche-Comté, la Bourgogne et en glissant également vers la région lyonnaise et bien sûr dans les Alpes où il y a toujours un fort risque d'avalanche, notamment en Haute-Savoie. Ailleurs, c'est beaucoup plus calme. Alors dans le midi, il y a du soleil mais beaucoup de vent, une tramontane notamment à 110 km/h quand même dans Languedoc-Roussillon. On a des averses orageuses également sur la Corse. Et côté soleil, rendez-vous au nord, entre le nord, le bassin parisien ou même en Champagne-Ardenne, en Lorraine et à nouveau déjà en Alsace où le soleil revient. Les températures cet après-midi de moins 1 à 13 degrés entre Mulhouse et Ajaccio, 4 à Paris, 8 à Nantes et à Toulouse.
La question du jour sur RTL.fr, le reconfinement est-il inévitable? On vous attend au 32-10, bonjour Pascal Praud.
Une question joyeuse ce vendredi, chère Christelle.
Oh, les bonjour. Cœurs. D'abord le couvre-feu et puis après, plus si affinité.
Exactement, le couvre-feu à 18h est généralisé. Venez nous en parler, venez nous dire comment vous vivez cette période, dans quel état d'esprit êtes-vous notamment avec le moral en berne. Les paroles de Camilla Jordana. Si j'étais un homme, je demanderais pardon. Ce sont ses mots dans une interview à l'Obs. Et elle ajoute que dans l'inconscient collectif, les hommes blancs sont responsables de tous les maux de la Terre. Ça fera réagir, bien sûr. Et vous pourrez venir nous donner votre avis. Faut-il interdire le port du voile aux petites filles? Ce sera notre dernière question. Vous savez que deux députés de La République En Marche, Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau, ont déposé deux amendements au projet de loi confortant le respect des principes de la République.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Calme blanc aujourd'hui à Strasbourg. Plus de 20 cm de neige sont tombés sur la capitale alsacienne. C'est du jamais vu depuis 10 ans. Épicentre de ce que Météo France appelle un épisode neigeux remarquable. Et c'est tout le Haut-Rhin qui vit au ralenti ce matin. Samuel Goldschmidt, vous êtes à Rorschwihr, entre Colmar et Sélestat, dans un autre espace-temps.
Oui, tout est blanc, tout est beau, les bruits sont estompés et tout est aussi un petit peu plus compliqué, comme aller à l'école.
Bah oui, oui, ça fait au moins 10 ans qu'on n'avait pas connu ça, donc effectivement c'est spécial, mais en même temps c'est presque magique.
Vous êtes allé faire quoi là?
Chercher mon fils à l'école, en luge, ouais c'est ça, tout à fait.
Il y a combien de centimètres?
Ah, vu le nez, 30, 35 peut-être.
Et elle n'exagère pas du tout, et dans toute la région ce matin, les mêmes scènes tentaient de dégager les allées de garage, les cours, les places de parking pour aller au travail, et le succès est loin d'être garanti.
Ah bah si, un peu compliqué, surtout quand on travaille. Je suis aide à domicile, donc je peux pas laisser mes personnes âgées sans rien, sans... Donc c'est un peu la panique, on va dire.
Vous êtes en retard de combien de temps là?
Ah bah là, j'ai depuis 8h de ce matin, hein, je devais travailler, hein.
Voilà, alors la dame s'en est sortie finalement. Il fait très beau actuellement, la neige s'est arrêtée de tomber, mais de la frontière allemande au nord à la Suisse au sud, les déplacements sont très compliqués. Ce sont partout des camions qui se mettent en travers et bloquent une route dès qu'il y a une côte. Évitez aussi les cols vosgiens, beaucoup d'arbres se sont couchés en travers des routes sous le poids de la neige. Même chose pour les fils électriques, il y a 10 000 foyers encore privés d'électricité.
Et prenez soin de la voiture RTL, Samuel. Je précise aussi qu'il n'y a presque aucun TER qui circule aujourd'hui en Alsace. La situation de l'épidémie est maîtrisée mais fragile, disait hier soir Jean Castex, avant de raccourcir nos journées, puisque le couvre-feu à 18h concernera tout le pays dès demain. Santé publique France vient de publier les derniers chiffres. Elle a enregistré un nombre de contaminations en hausse de 30% sur la semaine du 4 au 10 janvier par rapport à la semaine précédente. Il y a donc clairement, Sophie Orange, une inquiétude pour les plus jeunes. jeunes.
Avec plus 46% chez les moins de 19 ans, même augmentation chez les plus jeunes avant 10 ans. On avait déjà vu de tels chiffres en octobre, quelques semaines avant le confinement. Pourquoi ? Alors, il n'y a plus le biais des tests effectués avant d'aller voir les grands-parents pour les fêtes. Il y a peut-être un contre-coup, des repas de famille avec des cas positifs et donc des recherches de cas contacts. On devra confirmer cette tendance pour l'expliquer. En tout cas, l'incidence est en hausse, mais elle part de plus bas, autour de 83 chez les jeunes, 188 en moyenne nationale.
Bon, et par ailleurs, on comptabilise 69 personnes infectées par le variant anglais.
Alors ça, ce sont des cas confirmés à 100% par des techniques de séquençage qui prennent plusieurs jours. Mais si l'on extrapole par rapport aux travaux en cours et par rapport aux tests PCR capables de repérer les discordances, Santé publique France estime que le variant anglais est responsable de 1 à 2% des cas de Covid actuellement diagnostiqués en France. Ce qu'on dit depuis le début de la semaine, c'est environ 200 cas par jour. Ce variant anglais présent désormais dans 11 régions sur 13, 4 régions de plus en quelques jours. Seul le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté sont épargnés.
Alors, quant à la vaccination, hier dans RTL Midi, Sophie, vous évoquiez le bug de santé.fr. Ça marche cette fois ?
Cette fois-ci, c'est bon sur santé.fr. Bon. Le site a été complètement remanié, allégé. Vous tapez le numéro de votre département et en quelques secondes, vraiment, c'est très rapide, la liste des centres de vaccination, les téléphones et les liens pour prendre rendez-vous. Il y a désormais plus de 800 centres. En revanche, le numéro national, lui, est saturé. Impossible à joindre ce matin. Même chose à Paris avec le 3975. Visiblement, la vaccination contre la Covid suscite questions et intérêts.
Bon, et les plus de 75 ans, merci Sophie, qui ne vivent pas en EHPAD, peuvent donc prendre rendez-vous. Mais dès la semaine prochaine, la vaccination sera ouverte aussi à toutes les personnes atteintes de maladies graves, quel que soit leur âge, pour les protéger au plus vite. Deux vaccins sont disponibles, celui de Pfizer et de Moderna. Ce matin, le PDG de la société de biotechnologie Moderna, justement Stéphane Bancel, était l'invité d'Alba Ventura sur RTL et il a ouvert des perspectives plus qu'encourageantes sur le cancer.
Aujourd'hui, Moderna, donc on a 5 molécules contre le cancer, dont un produit qui est totalement révolutionnaire, qui est en fait un produit qui est fabriqué pour chaque patient. C'est un produit différent que dans nos usines, on fabrique juste pour une personne à la fois. On prend une biopsie de votre cancer. Elle est analysée génétiquement par le séquençage génétique pour lire toutes les lettres de votre ADN de votre cellule cancéreuse. C'est comparé à l'ADN d'une de vos cellules saines. Et par rapport à ça, on peut savoir où sont les mutations de votre cancer, mutations génétiques de votre cancer.
C'est incroyable.
Et avec ça, on fait en 3 à 5 semaines un produit qui est envoyé à l'hôpital, qui est fait pour vous, qui est un vaccin, qui vous est donné toutes les 3 semaines, qui permet d'éduquer votre système immunitaire à reconnaître votre tumeur. Parce que si vous avez un cancer, c'est que votre tumeur a grossi et que votre système immunitaire n'a pas été capable de lutter contre ce cancer.
C'est pour quand ça, Stéphane Bancel ?
Alors, c'est en phase 2 en ce moment. Donc, c'est en train d'être testé sur une grosse étude sur le cancer de la peau. On devrait avoir le résultat soit cette année, soit l'année prochaine.
Stéphane Bancel, donc le PDG de Moderna, qui était interrogé ce matin sur RTL par Alba Ventura. Pour aller plus loin, nous sommes en ligne avec le professeur Laurence Zitvogel de l'Institut Gustave Roussy, qui est spécialisé en immunologie. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez d'entendre le PDG de Moderna. Cette technique de l'ARN messager, c'est aussi un motif d'espoir dans la lutte contre le cancer ?
Tout à fait. Nous avons plus de 8 ans de recul dans cette dimension avec de l'ARN. Donc cet ARN rentre dans le chef d'orchestre de la cellule dendritique, la chef d'orchestre du système immunitaire, qui va donc permettre de stimuler les lymphocytes qui vont tuer les cellules tumorales. Donc cette technique d'ARN est extrêmement puissante pour monter une immunité protectrice chez le patient porteur de tumeur.
Mais attendez, ça veut dire que potentiellement c'est une révolution, ça ?
C'est une révolution quand on l'utilise au bon moment, c'est-à-dire chez des patients qui ont un diagnostic de cancer de mauvais pronostic et avant la rechute métastatique. Ce n'est pas encore démontré. 9 patients sur 108 seulement ont eu une réponse très 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 palpable et donc convaincante. D'autres résultats doivent venir. Surtout en combinaison avec l'immunothérapie, les anticorps anti-PD-1, PD-L1 et CTLA-4 qui sont actuellement très administrés dans le mélanome, dans le cancer du poumon. À l'IGR, nous avons...
L'Institut Gustave Roussy, je précise.
À Gustave Roussy, nous avons déjà administré des patients porteurs de cancer prostatique, de cancer mammaire, et nous avons donc une habitude et nous pouvons nous détendre par rapport à la sécurité du produit.
Mais ce traitement personnalisé, il va se développer là désormais, ça peut se généraliser à partir de quand ?
C'est déjà généralisé, c'est ce qu'on appelle la personnalisation de l'immunothérapie. C'est encore à l'étude puisque, comme l'a dit le PDG de Moderna, oui. Nous avons besoin d'avoir davantage de cas et davantage de monitoring immunologique pour vraiment faire la corrélation entre l'immunité du patient et la réponse, la régression de la tumeur.
Mmh. J'imagine que ce sont des traitements qui coûtent extrêmement cher, non ?
Actuellement, non, dans le sens où les liposomes, ce sont des petites particules, la formulation du vaccin, c'est-à-dire que c'est de l'ARN qui est mélangé à des particules lipidiques, et cette formulation n'est pas extrêmement chère.
Bon, bah, c'est un bel espoir. Merci beaucoup d'avoir fait le point et d'avoir un petit peu fait de la pédagogie avec nous, professeur Wiedwitz-Vogel. Merci à vous. On fait une pause dans un instant, on regarde de plus près les conditions de ce couvre-feu.
RTL Midi. Avec Christelle Rebière.
Le couvre-feu concerne tout le pays désormais, au moins pour 15 jours. L'été noir sera obligatoire à partir de 18h dès demain pour contenir l'épidémie. Ça va compliquer évidemment la vie des salariés, des commerçants, artisans ou encore des lycéens qui parfois sortent plus tard. Alors faisons le point avec vous, Marie Guerrier. Que sera-t-on autorisé à faire par dérogation après 18h ? On peut quand même continuer à travailler ?
Alors les commerçants, non. Tout le monde baisse le rideau, boulanger, librairie, coiffeur, les supermarchés, voilà les lieux qui accueillent des clients ferment à 18h.
Bon, et pour les autres ?
Le télétravail doit être la règle quand c'est possible. Donc dans ce cas, évidemment, la question de la présence après 18h ne se pose pas. Si votre métier ne permet pas le télétravail, vous pourrez continuer à travailler après 18h, mais l'employeur doit vous fournir une attestation. Si vous êtes votre propre patron, il faut cocher sur la dérogation que vous êtes en déplacement entre le domicile et le lieu de travail. Les artisans stoppent leur chantier avant le couvre-feu, mais les interventions d'urgence restent possible, comme appeler un plombier sur une fuite.
Bon, est-ce qu'on peut aller chercher une commande ?
Non. Alors, vous pouvez commander à manger, mais ce sera forcément livré après 18h. Les livreurs font partie de ceux qui peuvent circuler.
Bon. Et je peux me rendre, par exemple, à un rendez-vous chez le médecin ou chez le dentiste ?
Alors là, oui. Et vous pouvez même aller à la pharmacie qui ne fermera pas à 18h. Ça fait partie des exceptions.
Bon. Et les crèches, est-ce qu'elles restent ouvertes ?
Elles peuvent aller au-delà de 18h. Les babysitters peuvent aussi venir garder les enfants après le début du couvre-feu. Les parents employeurs vont devoir fournir une attestation.
Enfin, dernière question, est-ce que les élèves peuvent avoir cours après 18h ?
Oui, ou bien être à l'étude. Le carnet de correspondance ou la carte de l'établissement doivent suffire comme justificatif pour rentrer ensuite à la maison. Il y a sinon une case à cocher sur la dérogation, déplacement entre le domicile et le lieu d'enseignement ou de formation. Alors, en revanche, les activités extrascolaires, elles, c'est exclu après 18h, au moins pour les deux prochaines semaines.
Merci Marie pour ce point très complet. Hier soir, Bruno Le Maire a dévoilé son acte 2 de son quoi qu'il en coûte avec 4 milliards d'euros débloqués pour aider les entreprises les plus touchées par la crise. Mais les salariés les plus précaires, les serveurs et autres saisonniers sont dans une situation extrêmement difficile et pourtant, voilà ce que la ministre du Travail leur promettait en novembre dernier.
Nous avons décidé de mettre en place une aide exceptionnelle. Elle permettra à toutes celles et ceux qui ont travaillé plus de 60% du temps au cours de l'année 2019. Mais qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits du fait de la crise, de bénéficier d'une garantie de revenu minimum de 900 euros par mois sur les mois de novembre, décembre, janvier et février.
Voilà, ça c'était les annonces d'Elisabeth Borne, sauf que, Anaïs Bouissou, 450 000 personnes attendent toujours.
Oui, finalement, aucun versement n'est prévu ce mois-ci. Cette aide, jusqu'à 900 euros par mois, censée apporter un minimum vital aux demandeurs d'emploi, ils n'en ont toujours pas vu la couleur. Ce sont des serveurs sans ressources, ce sont des saisonniers sans travail et bien souvent, ce sont des jeunes qui doivent, en attendant, continuer de se nourrir et de payer leur loyer. Alors pourquoi ce retard ? Tout simplement pour des raisons logistiques, parce que c'est une aide qui n'existait pas, qu'il a fallu paramétrer pour 450 000 personnes concernées. Et entre les annonces et les versements, le temps que les ordinateurs moulinent, l'intendance, comme on dit, n'a pas suivi. Alors le ministère se veut rassurant, les aides seront bien versées, mais il va encore falloir patienter, difficile à entendre pour des personnes sans ressources. Si tout va bien, les premiers versements tomberont début février et tout est décalé pour la suite. Le mois de janvier sera versé fin février et les aides du mois de février devraient parvenir aux demandeurs d'emploi à la fin du mois de mars.
Anaïs Bouissou, un calendrier décalé. Donc, dans un instant, le naufrage d'un chalutier dans le Calvados. 3 marins pêcheurs portés disparus.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Dans l'actualité, il y a aussi cette vive inquiétude du côté de Courseulles-sur-Mer dans le Calvados. Trois marins pêcheurs sont portés disparus après le naufrage de leur navire lors d'une opération de remorquage par les sauveteurs en mer. Julien Caillard, vous êtes sur place et les recherches viennent d'être arrêtées.
Oui, parce qu'avec une mer à 9 ou 10 degrés, les espoirs de retrouver en vie les trois marins étaient devenus quasi inexistants. C'est vers 23h30 que ce chalutier, le Braise, basé à Courseulles-sur-Mer et battant pavillon français, a sombré. Il était au nord de Lyon-sur-Mer et il était en train d'être remorqué par un canot toutan de la SNSM. Le chalutier avait en effet dû faire face à une avarie de barre au large de Port-en-Bessin. Avarie qu'il avait signalée un peu avant 19h. Le naufrage s'est produit alors que la mer était extrêmement formée et que le convoi se rendait à Ouistreham. Le chalutier a embarqué une lame et a sombré soudainement en quelques secondes. Les trois marins n'ont sans doute pas eu le temps de sortir de la cabine. L'épave a été localisée à 3000 nautiques, 5,5 km environ des côtes. À cet endroit, il y a 15 mètres de profondeur. Les recherches ont donc pris fin. Des plongeurs doivent désormais intervenir sur l'épave, mais les conditions météo restent ce midi ici toujours difficiles.
Et une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie maritime. Une nouvelle enquête contre Nicolas Sarkozy ouverte par le parquet national financier. L'ancien chef de l'État est soupçonné de trafic d'influence et de blanchiment, indique le PNF à RTL. Selon Mediapart, qui a révélé l'information ce matin, la justice s'intéresse à des virements d'une compagnie d'assurance russe vers la société de conseil de l'ancien chef de l'État. Aucun commentaire à ce stade des avocats de Nicolas Sarkozy. Un mois maintenant que Delphine Jubillar, cette jeune infirmière, mère de famille, a disparu de son domicile à Cagnac-les-Mines dans le Tarn. La piste criminelle est largement privilégiée et hier, son compte Facebook a été brièvement activé. Un message vide, retiré quelques minutes après, qui suscite beaucoup d'interrogations. Les gendarmes vont vérifier ce qui s'est passé. Damien Bancal, spécialiste en cybercriminalité, nous explique comment.
Concrètement, les autorités, les gendarmes, peuvent, pour remonter cet étrange message, eh bien demander à Facebook la géolocalisation de la diffusion de ce message. Ensuite, le matériel qui a pu être utilisé. Est-ce que c'était un ordinateur? Est-ce que c'était un téléphone portable? Et puis, à partir de ces éléments-là, ils pourront plus ou moins environnementer, eh bien, qui est l'auteur, en tout cas, de ce message? Est-ce que c'est la propriétaire du Facebook ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a aussi la possibilité du voleur, d'une personne qui a trouvé l'appareil, le téléphone par exemple, et qui a voulu s'en servir. La dernière possibilité, mais qui moi me paraît totalement improbable, un bug de Facebook. Ça fait beaucoup d'éléments qui font que, par hasard, c'est à partir de cette page. Non, pour moi, c'est soit la propriétaire, soit quelqu'un qui a trouvé le moyen d'y accéder.
Et Damien Bancal avec Guillaume Chiez. Un lycéen en garde à vue ce matin à Clermont-Ferrand. Des menaces de mort avaient été reçues par le personnel d'un lycée à Rion, qui avait d'ailleurs dû fermer cette semaine. L'adolescent devrait être déféré au parquet dans la journée et faire l'objet d'un placement, si possible, hors département, d'après le procureur de la République. Le Dakar endeuillé, le motard français pilote amateur Pierre Cherpin avait fait une lourde chute dans la 7e étape. Chef d'entreprise de 52 ans, originaire de Lens, est décédé lors de son transfert. Et c'est Stéphane Peter Hansel qui a remporté le rallye en Arabie Saoudite. C'est sa 14e victoire, 30 ans après la première. On le surnommait déjà Monsieur Dakar. Il est vraiment un seigneur du désert. Et puis une grosse pensée pour l'icône rock des 60s, Marianne Faithfull. Elle a souffert d'une forme grave de coronavirus en avril dernier. À 74 ans, elle a passé plus de 3 semaines à l'hôpital. Et dans une interview accordée au journal The Guardian, elle annonce qu'elle ne pourra sans doute plus jamais chanter. À cause des séquelles liées à la maladie, ses poumons sont trop endommagée. Elle attend qu'un miracle lui rende sa voix. C'est extrêmement émouvant. Voilà, ça c'est la balade de Lucide Jordan. Je vois que ça vous touche, Pascal.
Bah, c'est notre génération, c'est une icône, comme vous l'avez dit. Elle est d'une beauté iconique, pour le coup. Et vous pourrez, pourquoi pas, réagir sur cette information. Le couvre-feu, bien sûr. Qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Est-ce que vous pensez que c'est efficace? Le reconfinement est-il pour vous inévitable? Et puis, moi, j'adorais Camélia Jordana. Je l'avais vue dans Le Brio. Je l'avais trouvée formidable, émouvante. Un film vraiment très réussi de Yvan Attal. Et puis je l'aime bien comme chanteuse parce qu'elle justement elle produit de l'émotion. Mais là j'ai été un peu surpris comme tout le monde. Si j'étais un homme je demanderais pardon. Moi j'ai pas spécialement envie de demander pardon. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Ce sont ces mots dans Love. Elle consacre donc son prochain album au féminisme et à l'égalité des hommes-femmes. Alors je vais poser la question aux hommes. Est-ce qu'il y a des hommes qui ont envie de demander pardon? Je sais pas ce que vous en pensez mesdames. Est-ce qu'on doit demander pardon? Bon, je vois que ça vous laisse sans voix.
Joker.
Faut-il interdire le port du voile aux petites filles? Vous savez que deux députés de La République En Marche, Aurore Berger et Jean-Baptiste Moreau, ont déposé deux amendements au projet de loi confortant le respect des principes de la République. Voilà le sujet du jour.
À tout de suite. La météo, Valérie Quintin. Vous nous avez remis la lumière. Franchement, c'est sympa.
Oui, sur le nord du pays. Alors, c'est vrai qu'à Paris, on en a manqué cette semaine. Eh ben, on a du soleil cet après-midi, comme à Reims, à Rouen, à Saint-Omer ou encore au Mans. La neige qui a concerné donc les régions du nord-est ces dernières 24 heures est en train de glisser peu à peu vers le sud. On va en retrouver cet après-midi en Franche-Comté, en Bourgogne, légèrement aussi en région lyonnaise ou encore dans les Alpes. Mais ça va perdre en intensité. Il y aura plus que quelques flocons. Il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, dans le courant de l'après-midi, ailleurs, quand même pas mal de grisailles, un ciel dégagé, mais beaucoup de vent près de la Méditerranée et des températures, ma foi, qui sont quand même un petit peu fraîches. 0 à Strasbourg au meilleur de l'après-midi, 1 degré à Dijon, 2 à Lille, 4 à Paris, 9 à Bordeaux, 10 à Brest et 11 à Marseille.
Bon, et demain, un peu de poudreuse sur la Tour Eiffel?
Oui, figurez-vous. Alors, on a une chance. À Paris, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué de le prévoir, mais il n'empêche que les températures vont sérieusement baisser dès la nuit prochaine. On va avoir moins 11 degrés à Metz quand même au réveil, donc franchement, il va faire froid dans la capitale également. Et dans le même temps, il y a une dégradation qui va arriver par le nord-ouest. Alors sur la pointe bretonne, ça va donner de la pluie, mais très rapidement, en rentrant dans les terres, on devrait avoir de la neige. Donc ce sera le cas probablement en Ile-de-France entre 11h et 13h si tout va bien. Et puis sur les autres régions.
Un petit épisode neigeux. Hein.
Un petit épisode qui pourrait fournir 1 à 3 cm de neige. Neige qui pourrait même tenir, puisque les températures vont franchement peiner à remonter.
C'est la meilleure nouvelle depuis des mois.
Mais oui,
que
à la fois s'amuser un peu demain.
À la fois sur Paris, trois flocons, c'est compliqué.
On en met de la neige.
Oui, non, mais ça risque d'être compliqué quand même à Paris, parce que s'il y a trois flocons de neige, plus personne n'avance. Oui, donc il va falloir être prudent quand même pour la journée de demain. D'autant qu'il fera très froid. 1 degré à Paris au moment le plus chaud de l'après-midi demain,
donc
moins 2 degrés à Nancy, 0 à Lille, donc ça va tenir.
Exactement.
Il faudra se méfier des phénomènes de pluie verglaçante également. Pendant ce temps-là, dans le sud, du grand beau temps, et c'est vraiment l'histoire de 24 heures, parce que dès dimanche, les températures remontent. Il n'y aura plus rien.
Moins après, 11 à Metz.
Voilà, c'est 24 heures. Hein.
Et moins 11 à Metz, ça rigole pas quand
on
même.
On se dépêche d'en profiter. Allez, je vous laisse papoter tous les deux. À suivre le rappel des titres, et puis ça va être à vous si vous avez fait le 32.
Moins 11.
Il va pas s'en remettre.
Non.
RTL.
13h. Bruno est avec nous. Bruno qui va intervenir
avec Pascal Pro.
Bruno est avec nous qui va intervenir sur le couvre-feu des restaurateurs dans l'Aveyron. Bonjour Bruno.
Oui, bonjour Pascal.
Là, vous
je
êtes
suis
en
pas
jouer.
Dans l'Aveyron, je suis à Paris. Hein.
Oui.
Chez papa.
Bien sûr, vous êtes restaurateur aveyronnais.
Je suis un restaurateur aveyronnais, exactement.